Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La tendance à rechercher des approches plus naturelles est partout. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne l'alimentation et les cosmétiques. Entretien de la peau, en évitant les produits agressifs et en particulier les crèmes éclaircissantes pour les peaux mates et noires. Et pour les cheveux crépus, affirmation identitaire au travers du respect de la nature capillaire, du frisage et donc en renonçant au lissage. Ce mouvement nappy qui met en avant une allure plus authentique offre, on va le voir au travers de notre émission, de multiples avantages en termes de santé capillaire, car aller contre la nature de ses cheveux peut parfois avoir des conséquences irréversibles en termes de casse ou même de chute des cheveux. On va donc parler aujourd'hui des différents problèmes qui peuvent concerner la chevelure ou même le cuir chevelu, démangeaisons, squames, retrouver de beaux cheveux après des traitements agressifs, ménager leur implantation et comme chaque jour, on attend vos témoignages, vos questions sur la page Facebook de l'émission ou à notre numéro 33 84 22 75 75. Santé capillaire, pour répondre à vos questions, studio avec nous, docteur Antoine Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue praticien à l'hôpital Saint-Louis à Paris et tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de Guinée le docteur Fatimata Keïta, dermatologue au CHU d'Onca de Conakry. Quelle efficacité pour la vaccination précoce contre la fièvre jaune? Une étude de l'INSERM fait le point sur l'efficacité à long terme du vaccin administré aux nourrissons. On va en parler en fin d'émission avec José Enrique Meria, docteur en sciences chargé de recherche à l'INSERM au centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Antoine Petit, quand on parle des cheveux, on parle de santé, on parle d'esthétique. Est-ce qu'on peut dire qu'une belle chevelure, c'est d'abord une chevelure en bonne santé?
Oui, et une belle chevelure en bonne santé, c'est le signe d'une personne en bonne santé.
C'est le reflet d'une santé de l'organisme en général, on peut dire?
On peut le dire dans la mesure où certaines carences, effectivement, des carences en fer par exemple, vont atteindre la chevelure et faire tomber plus facilement les cheveux. Il en est de même avec des pathologies générales, une cirrhose du foie, un problème d'hypothyroïdie, peuvent effectivement affecter beaucoup la chevelure.
Et il peut y avoir justement certains de ces symptômes qui vont précéder, par exemple, un diagnostic, ça peut être un signe annonciateur?
Ça arrive aussi, c'est pas très fréquent, mais on est parfois amené à faire un diagnostic de maladie générale à partir d'une plainte qui est une chute de cheveux ou l'apparition de plaques sur le cuir chevelu.
Alors, docteur Antoine Petit, est-ce qu'en dermatologie, justement, tous ces problèmes liés à la santé capillaire, ça pousse un grand nombre de patients à venir vous voir ou c'est finalement une proportion assez marginale de consultations?
C'est extrêmement fréquent, hein, c'est un motif de consultation extrêmement fréquent, tant pour les hommes que pour les femmes, pour les jeunes que pour les personnes plus âgées, pour les noirs ou les blancs, c'est vraiment une demande particulière très très fréquente.
Et pourtant on en entend peu parler, ça veut dire que finalement on va consulter pour ses cheveux, pour la chute des cheveux, de façon un petit peu incognito, on n'en parle pas autour de soi ou c'est quelque chose qui se dit?
C'est quelque chose qui est assez banal, c'est une plainte qui est formulée à son entourage et pour commencer à son coiffeur. Hein. On y réfléchit, on en parle entre amis et puis on est amené plus ou moins à consulter un médecin. Il faut dire qu'il est normal que des cheveux tombent. Hein. Les cheveux tombent physiologiquement et ils sont remplacés par d'autres. Donc il n'y a pas toujours de quoi s'inquiéter. Quelques dizaines de cheveux qui tombent chaque jour, c'est strictement normal.
Alors, le geste d'aller jusque chez vous, cette consultation, justement, vous avez cité les coiffeurs, c'est fréquent qu'ils servent en quelque sorte de relais ou d'alerte pour dire là, monsieur, madame, il y a quelque chose à faire, il vaut mieux consulter?
Ah, les coiffeurs ont parfois un rôle, effectivement, d'alerte, de dépistage d'affection du cuir chevelu. Mais enfin, il faut dire que la plupart des gens qui consultent en dermatologie pour leur cuir chevelu, viennent, si j'ose dire, de leur propre chef.
Alors précisément, ces motifs de consultation, docteur Antoine Petit, pour ces problèmes capillaires, cuir chevelu, cheveux en tant que tel, c'est quoi les principaux motifs?
Le principal motif, c'est la chute et le sentiment qu'il y a un éclaircissement et qu'il y a moins de cheveux qu'auparavant, que la chevelure est moins belle qu'auparavant.
Alors, les cheveux peuvent changer avec l'âge. On voit le duvet parfois du nourrisson, après une belle chevelure qui s'installe. Qu'est-ce qui détermine tout cela?
Sont des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux, parfois des facteurs d'environnement, de santé générale, mais une impression de baisse de densité de la chevelure, parce que les cheveux sont plus fins, c'est quelque chose d'assez physiologique avec l'âge. Hein, on peut pas avoir d'aussi beaux cheveux à 70 ans qu'à 16 ans.
Ça fait partie du processus général de vieillissement.
Absolument.
Est-ce qu'on peut parler d'hérédité en la matière? Est-ce qu'on, en gros, on peut dire, quand on est un petit peu trivial, docteur Petit, parents chevelus, enfants chevelus, c'est vrai ou pas?
Alors, ce qui détermine la qualité de la chevelure quand on vieillit, c'est sans doute une multiplicité de facteurs dont certains sont transmis génétiquement, mais c'est complexe. On a déterminé, il semble en tout cas, que pour ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique, c'est-à-dire la calvitie masculine, il y a quand même des facteurs génétiques plutôt du côté des femmes, c'est-à-dire que vous pouvez plus facilement devenir chauve plus tôt si le père de votre mère était chauve.
Ah donc, il faut remonter dans l'arbre généalogique pour savoir de quoi sera fait notre avenir capillaire. Alors, chute des cheveux en fonction justement de cette hérédité. Et puis aussi, docteur Petit, on va le voir tout à l'heure avec nos auditrices qui sont nombreuses à attendre en ligne, avec justement des gestes ou des coiffures. C'est vrai particulièrement quand on utilise par exemple des rajouts, des choses qui peuvent être pesantes, avec quand on tire sur les cheveux aussi avec certaines coiffures. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui motive de nombreuses consultations?
Oui, là vous parlez de ce qu'on appelle l'alopécie de traction. Alopécie, ça veut dire chute de cheveux, hein, perte de poils, on va dire, de manière générale. Ça fait référence au qui mue. Et cette alopécie de traction, c'est quelque chose qui a été décrit au départ chez des femmes blondes en Suède qui faisaient des chignons très lourds en tirant beaucoup. Et on la retrouve très très fréquemment chez les femmes à cheveux africains, à cheveux afro comme on dit, très bouclés. Et ça vient de l'habitude de faire des tresses extrêmement serrées en tirant très fort. Et donc c'est très caractéristique sur les bords du cuir chevelu au-dessus des oreilles, mais aussi parfois en arrière. À force de faire des tresses très très fortes, très serrées, eh bien petit à petit, on va avoir une chute définitive des poils sur cette zone.
On reviendra tout à l'heure justement avec les questions sur ces fameuses questions du coiffage, tressage, c'est très important. Mais si on s'arrête sur les produits, y compris les cosmétiques, sur les étiquettes, hein, des shampoings, des crèmes, etc., figure la nature du cheveu. Est-ce que c'est purement du marketing ou est-ce que ça a un sens, docteur Petit, quand on est dermatologue?
Quand vous parlez à un médecin, vous parlez à quelqu'un qui par nature est un peu sceptique, ou par culture on va dire. Donc je suis forcément un petit peu sceptique sur ce qui est annoncé sur les produits cosmétiques, c'est-à-dire que on n'a pas toujours la démonstration scientifique publiée, accessible, des propriétés qui sont affichées sur les cosmétiques, sur les emballages de cosmétiques. D'un autre côté, il faut bien dire que la cosmétique a fait quand même d'énormes progrès et que des gens travaillent scientifiquement à améliorer la qualité des produits cosmétiques. Donc je vous fais une réponse de Normand un peu entre les deux, en disant il faut rester prudent et sceptique vis-à-vis de tout ce qui est annoncé sur un emballage cosmétique quand on n'a pas de preuves scientifiques, mais il y a quand même des bons produits. Alors globalement, quand on dit que après il faut demander à des spécialistes effectivement en cosmétique, et je ne suis pas spécialiste en cosmétique.
Mais en tout cas, si on utilise un shampoing pour cheveux secs, si on a les cheveux gras, il n'y a pas de danger, en tout cas a priori.
A priori,
si le produit est bon.
A priori, il n'y a pas de danger. Et je pense qu'en la matière, quand même, les consommateurs sont les premiers juges, les premiers évaluateurs. Si vous êtes satisfait de votre shampoing, gardez-le.
C'est un bon conseil. On donne tout de suite la parole aux auditrices et aux auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Une auditrice en ligne du Congo Brazzaville, de Brazzaville précisément, c'est Enacha qui est avec nous. Bonjour Enacha.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Le docteur Petit bonjour. Est à votre écoute, allez-y.
En fait, j'ai un souci avec ma chevelure. La qualité de ma chevelure, elle est très fine et puis sec. Maintenant, quand je mets des tissages, le plus souvent, je perds des cheveux quand je les enlève. Au moment où je teigne mes cheveux, vraiment, je constate que je perds beaucoup de cheveux. Et le cuir chevelure du devant et du derrière également, je perds vraiment des cheveux. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre mes cheveux ici. Et est-ce que en continuant à mettre des tissages, ça va continuer à endommager la qualité de mes chevelures, ou encore je peux poursuivre avec les tissages? Parce que ma coiffeuse m'avait fait comprendre que le fait que j'ai une chevelure très fine et qu'on s'est étouffé, c'est pourquoi je perds souvent les cheveux. Donc je voulais savoir si je peux continuer avec les tissages ou non, et qu'est-ce que je peux faire pour rendre un peu ma chevelure ici et puis améliorer la qualité.
Docteur Antoine Petit, double question. Dénacha, d'abord, comme elle perd des cheveux à cause de ses coiffures, ses tressages, ses tissages, est-ce qu'elle doit continuer?
Alors, la première chose, c'est que les cheveux africains sont par nature secs et fragiles et se cassent facilement. Et pour lutter contre cette sécheresse, cette fragilité et améliorer un petit peu leur résistance, on les graisse, et c'est ce que font la plupart des femmes avec des huiles ou avec du beurre de karité, des choses comme ça. Donc ça, il faut continuer à le faire. La seconde chose, c'est, si j'ai bien compris, Nacha, vous avez l'impression que vos cheveux tombent quand vous arrêtez les tissages. Hein ? Alors peut-être est-ce que parce que quand vos cheveux qui sont prêts à tomber sont pris dans le tissage, un peu comme dans les tresses, comme dans les dreadlocks, etc., ben ils tombent pas tout simplement parce qu'ils sont attachés aux autres. Et puis quand vous arrêtez, ils tombent plus. En soi, les tissages vont pas faire de mal à la chevelure à partir du moment où le poids qui pèse sur la tige du cheveu n'est pas trop lourd, et à partir du moment où, au moment où vous faites le tissage, vous ne tirez pas dessus. Hein. Si on fait un tissage ou des tresses, etc., sans tirer fort, ça n'abîmera pas la chevelure.
C'est en fonction de la coiffure. Votre coiffeuse tire beaucoup votre cuir chevelu quand vous êtes justement en séance de coiffage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ressentez ça, l'attraction, y compris une fois que la coiffure est terminée? Est-ce que ça tire? Il y a cette impression?
Oui, oui. Parce que
des fois, quand on se fait des chignons, hein, quand on est deux heures après la coiffure, ça nous tire, ça fait carrément mal à la tête. Donc, il y a une traction.
C'est ça qui abîme le cheveu, hein, Enacha. C'est ça qui abîme le cheveu. Et moi, je dis toujours, pour expliquer aux patientes, je leur dis, quand on était petit à l'école, pour nous faire lever de notre place quand ils voulaient nous gronder, les maîtres, les instituteurs nous prenaient, nous attrapaient par les cheveux sur le côté du crâne, et ça fait tellement mal qu'on se levait, on se mettait debout. Il faut pas faire mal. À partir du moment où ça tire, c'est pas bon pour le cheveu.
C'est que l'adage « il faut souffrir pour être belle » est complètement faux.
Absolument.
Il ne faut pas souffrir pour être belle. On peut faire des tissages, mais plus mesurés. C'est vrai, particulièrement vrai, docteur Petit, avec les petites filles. Quand on leur fait des tresses extrêmement serrées sur le crâne, même si c'est très très joli, il faut le reconnaître, c'est pas du tout bon pour leur implantation capillaire.
100% d'accord. Il faut apprendre, parce que parfois c'est trop tard à l'âge adulte, hein, pour des personnes qui ont eu des tresses très serrées pendant toute leur jeunesse. Il faut apprendre aux mamans à tresser les cheveux des petites filles sans tirer dessus.
Souplesse.
Souplesse.
Souplesse. Voilà, Enacha, et puis cette question, hein, qu'on entend très souvent, comment est-ce qu'on peut rendre cette chevelure plus épaisse, y compris quand il y a eu perte de cheveux? Là, c'est un petit peu compliqué, non? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Enacha, docteur Petit?
Pas grand-chose, malheureusement. Hein. Il est parfois difficile de faire repousser des cheveux qui sont tombés. Ils repoussent naturellement, mais lorsque on a trop tiré dessus, eh bien, ils ne repousseront pas. Par chance, je dirais que les chevelures très bouclées, crépues, très frisées, couvrent un petit peu la surface et ça aide à ce que ça se voit moins.
Voilà, Enacha, pour cette réponse. On vous souhaite une excellente journée à Brazza. On part pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire, avec Marina qui est en ligne avec nous. Bonjour Marina.
Bonjour Caroline.
Le docteur Petit est à votre écoute, allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Allez-y.
Bonjour.
Marina.
Je me suis défrisé les cheveux pendant 4 ans. Et en 2016, j'ai décidé de revenir au naturel, comme vu la tendance rapide. Donc j'ai tout enlevé et j'ai repris à zéro. Mais aujourd'hui, mes cheveux ont pris du volume, la longueur et tout. Et le problème, c'est que quand on veut peigner, quand je défais et que je veux peigner, ça me fait très mal. Et quand je vais pour la coiffure, c'est uniquement le beurre de karité que j'utilise. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des produits que je peux utiliser pour les ramollir un peu? Parce que vraiment, ça pisse sur les nerfs au niveau des yeux, tout ça là-dedans, ça me fait très mal. C'est pas juste.
Marida, vous diriez que c'est vraiment un problème de démêlage?
Bon, quand on peigne, en fait, quand ils sont en train de peigner, ça me fait très mal. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne veux pas démêler, je vais rester au naturel. Je vais rester. Mais s'il y a des produits pour assouplir un peu.
Pour assouplir, vous utilisez déjà du beurre de karité. Docteur Antoine Petit, qu'est-ce que vous pouvez dire à Marina qui visiblement a du mal avec sa chevelure naturelle?
Ben oui, c'est un peu contradictoire. On peut difficilement à la fois les garder naturelles et puis les démêler ou les peigner. Hein. Naturellement, l'emmêlement des cheveux qui ont des rayons de courbure, comme on dit, très courts, fait qu'ils font des nœuds. Ils font des nœuds et si on tire dessus pour essayer de les démêler, on les abîme. Alors, le fait de mettre des corps gras, de l'huile, tout ce que vous voulez, va aider quand même à les démêler un peu, mais il ne faut pas essayer de trop les démêler parce qu'on force, on fait mal et là, on obtient des cassures ou des arrachages.
Est-ce qu'il y a un moment où c'est le plus propice justement pour appliquer ces produits? On parle par exemple de masques ou de choses comme ça, sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs, ou c'est indifférent?
Alors, l'histoire de cheveux mouillés ou cheveux secs, pour le démêlage, c'est un peu contradictoire. Il y a des études biomécaniques de la force, enfin de la résistance physique des cheveux quand on tire dessus, quand ils sont mouillés, quand ils sont graissés, etc., qui donnent pas la même chose sur des cheveux lisses et sur des cheveux recourbés. Ces études aussi, elles peuvent être critiquables par certains côtés. Donc, je crois qu'il faut en fait se fier à un indicateur très simple qui est la douleur. C'est-à-dire, si pour vous démêler, vous vous faites mal, c'est que vous tirez trop dessus, c'est qu'il y a des nœuds qui vous empêchent de démêler. Si c'est mieux en graissant, c'est généralement le cas quand même, il faut essayer de démêler un petit peu avec un pan évidemment très très large, uniquement sur des cheveux qui sont gras ou mouillés. Alors ensuite, appliquer le corps gras sur un cheveu, logiquement sur un cheveu sec, puisque si le cheveu est mouillé, le corps gras va être, l'eau va empêcher le corps gras de napper la tige pilaire.
Alors générosité sur ces corps gras et douceur quand on démêle pour ne pas arracher.
Totalement.
Surtout, c'est très important. Bonne journée Marina Abidjan, on part pour le Cameroun, pour Yaoundé. Cécile est avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour madame.
Nous sommes à votre écoute, le docteur Petit vous écoute, allez-y.
D'accord, il y a de cela peut-être 15 ans que je défrise mes cheveux. Mmh. Et bon là, par moment, quand je défrise, après défrisage fini, les cheveux, il y a les cheveux qui changent de couleur là, et... C'est plus beau, ça devient, les cheveux se dégradent en fait, le temps ça se dégrade. Donc pour pouvoir avoir encore les cheveux avec un peu un bon éclat, il faut, me sens obligée de défriser encore. Et là maintenant, j'ai envie d'arrêter le défrisage, mais là je ne parviens pas, je ne sais pas quoi utiliser pour pouvoir les entretenir, pour qu'elles ne puissent pas être dues déjà, mm-hmm. quand je défrise. Et
le défrisage, excusez-moi Cécile, le défrisage, vous utilisez un produit que vous fabriquez vous-même maison ou vous allez dans un salon chez une professionnelle?
J'achète les produits dans un supermarché, généralement le pot, olive oil.
Vous achetez le produit au supermarché mais vous ne faites pas de mélange vous-même?
Non, on mélange au salon de coiffure.
Vous le mélangez au salon de coiffure et quand vous appliquez ce produit, c'est quelque chose qui a une odeur assez forte, c'est comment?
Oui, ça a une odeur assez forte.
Est-ce que vous diriez même désagréable?
Non.
Non, juste une odeur forte.
Parce que là, parfois, oui.
Et en fait, maintenant, vous avez envie d'arrêter, donc c'est ça?
Oui, madame.
Docteur Antoine Petit, quand on s'est défrisé les cheveux longtemps, comme le dit Cécile aussi, ça a changé la couleur, hein, elle a éclairci de cheveux. On peut revenir à quelque chose de plus naturel?
Oui. Oui, le défrisage chimique, c'est une agression chimique sur la structure du cheveu, hein, sur les molécules de kératine qui composent le cheveu, qui va toujours laisser un peu de séquelles, qui va toujours abîmer. Donc, quand on ressent qu'effectivement le cheveu est abîmé et qu'on a envie d'arrêter de défriser, c'est une bonne chose. Ça fait un petit peu, ça fait prendre des vacances à la chevelure. Hein. On arrête de défriser pendant quelque temps, si on peut, c'est-à-dire si c'est compatible avec le type de coiffure qu'on cherche à avoir. Hein, et ça fait du bien aux cheveux.
Ça veut dire qu'il faut couper pour retrouver une chevelure ou le cheveu va se refriser ou c'est définitif?
Le cheveu, il pousse, il tombe et un autre pousse à la place quand il est tombé. Hein. Donc de toute façon, si on arrête de défriser, la partie qui repousse, elle ne sera pas abîmée par le défrisage. Alors il y a une technique qu'on appelait, c'est pas le nappy, c'est le TWA, on disait le Tiny Weenie Afro, qui est une technique assez classique qui consistait à laisser les cheveux sans démêlage, sans peignage, naturel, sans défrisage, en les coupant très courts. Si ça va bien avec votre type de visage, Cécile, eh bien vous pouvez essayer ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et vous allez voir que vos cheveux vont être tout reposés par cette technique.
Une technique de remise en forme du cheveu. Cécile, très bonne journée à Yaoundé. On part pour Conakry, pour la Guinée. Avec nous, c'est Mamadou. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Notre premier auditeur. Madame. Bonjour. Le docteur Antoine Petit est à votre écoute. Allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Donc moi j'ai 33 ans, j'ai eu à avoir des cheveux blancs vers 25 ans comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à la cause de ça. J'ai un frère qui a 36 ans, mais il a commencé lui aussi à avoir les cheveux à l'âge de 22 ans comme ça. Mais lui, ça pousse moins longtemps, très lentement. Mais moi, depuis que j'ai commencé à avoir ça, ça poussait très vite maintenant. Les cheveux, toute la tête est devenue presque blanche, et la barbe aussi a commencé à pousser des cheveux blancs. Donc, je ne sais pas quelle est la technique que je peux utiliser pour enlever ça de ma tête.
Mamadou, pourquoi ça vous embête d'avoir les cheveux blancs? Ça ne vous donne pas un air sage, un air sérieux, un air très respectable?
Non.
Ça vous donne l'air vieux, d'après vous?
Avec mes amis, ils m'ont toujours considéré, ils me disent toujours vieux.
C'est ça, vous n'aimez pas les critiques que ça fait naître parce que ça vous a donné un air trop âgé, on va dire, un petit peu de façon prématurée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Mamadou? Des cheveux blancs dès la vingtaine, ça s'explique comment?
C'est comme ça. Hein? Il y a des gens
dont
les cheveux blanchissent très tôt, des hommes, des femmes qui ont. Il y a des femmes qui ont de jeunes qui ont de superbes chevelures blanches. Il y a des hommes qui ont des cheveux blancs ou des barbes blanches très tôt dans leur vie, d'autres beaucoup plus tard. C'est déterminé génétiquement certainement, mais il y a des facteurs d'environnement qui peuvent jouer un rôle. Parfois, les gens racontent qu'une émotion a été à l'origine de ça. On ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, on n'a pas de moyen de les faire revenir à une couleur, à leur couleur de départ, et donc on a des teintures, ou alors même il y a des poudres qui permettent de donner l'impression qu'ils sont moins blancs. C'est un problème qui est assez fréquent. On en parlait déjà dans les textes médicaux et cosmétiques de la Renaissance ou de l'Antiquité.
En tout cas, si Mamadou décide de se teindre les cheveux, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? C'est quelque chose qui se fait ou ça va se voir vraiment beaucoup?
Non, je pense qu'il peut se teindre les cheveux s'il veut. Hein. Faut savoir que les teintures à cheveux, parfois, surtout les teintures noires, parfois peuvent donner des allergies. Donc il faut faire attention si on fait une réaction sur la peau à ce moment-là. Mais on peut se teindre les cheveux, bien sûr.
Mamadou, vous avez pensé à vous teindre votre chevelure, justement?
Non.
Et c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout?
Bon, je pensais avoir des produits à utiliser mais je n'arrive pas.
Mais il n'y a pas vraiment de solution pour justement revenir en arrière. Hein. C'est ce que nous a bien expliqué le docteur Antoine Petit.
Ok, il n'y a pas de problème.
Très bonne journée à vous, Mamadou. On part pour le Gabon, pour Libreville, où nous sommes en ligne avec Jules César. Bonjour, Jules César.
Bonjour, Caroline.
On est à votre écoute, le docteur Petit vous écoute, allez-y.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour.
Oui, je vous appelle pour les mêmes soucis de cheveux. Il y a à peu près je veux dire un an, voire deux, j'ai commencé à constater que je perdais les cheveux au-dessus de la tête. Et en me référant à ma famille, j'ai constaté que mon père, lui, il a commencé à perdre les cheveux, à devenir chauve vers 70 ans. Moi, je n'ai même pas 60 ans, j'ai commencé à perdre les cheveux. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est parce que plus jeune, j'ai utilisé des produits défrisants? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas ce qui se passe? Alors j'ai continué à perdre les cheveux jusqu'à maintenant. Il y a des vides sur la tête, ça ne dessine pas complètement la calvitie, mais ça fait comme si c'était une calvitie naissante. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est parce que j'ai utilisé des produits, j'ai donc, je perds mes cheveux avant l'âge de 70 ans comme mon père, ou alors c'est parce que c'est biologique, c'est naturel?
Alors cette question de Jules César, est-ce qu'on peut faire cette consultation à distance, docteur Petit?
Vous avez tout à fait raison d'émettre cette réserve. Dans la mesure, monsieur Jules César, où je n'ai pas vu votre cuir chevelu, je ne peux pas émettre un diagnostic. Néanmoins, dans ce que vous racontez, je retiens une chose, c'est que vous perdez vos cheveux avant votre père, mais heureusement qu'on n'est pas tous exactement identiques à nos parents. Et effectivement, tel père peut perdre ses cheveux à 70 ans, tel fils à 30 ans, ça arrive, et c'est comme ça. Donc si vous avez une calvitie masculine à 60 ans, il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter, et surtout, faut pas que vous accusiez les défrisages que vous avez fait dans votre jeunesse, qui sont pas du tout en cause. Maintenant, vous pouvez effectivement consulter un dermatologue, ou un médecin, il y a parfois des lotions qui peuvent améliorer cette calvitie masculine qui est très fréquente à 60 ans. Hein.
Voilà Jules César pour cette réponse. On vous souhaite une excellente journée à Libreville. Une auditrice du Burkina, Rufine Awaga, Ouagadougou. Bonjour Rufine.
Bonjour.
On est à votre écoute. Allez-y Rufine.
D'accord. Moi, c'est depuis 2000... Et j'ai eu une grossesse et juste après l'accouchement, j'ai défait mes cheveux et je me suis retrouvée sans cheveux au milieu. Ça veut dire sur le crâne, il n'y avait plus rien. Et du coup, j'ai contacté un dermatologue et par la suite, comme ça ne progressait pas, il n'y avait rien et j'ai arrêté et je n'ai plus rien fait. Jusqu'à l'heure, là, je n'ai pas retrouvé mes cheveux.
Et ça fait 18 ans, donc, cet accouchement, ce premier accouchement. Vous aviez donc gardé le tressage, hein, Rufine, si je calcule bien. Vous aviez gardé le tressage pendant plus d'un an.
Non. Juste, j'étais à terme, donc j'ai fait deux mois avec.
Deux mois avec, et c'est après que vous avez perdu. Oui. Et il y avait donc une blessure, une infection sur votre cuir chevelu, c'est ça?
J'ai constaté des petites plaies, des boutons. Et comme je suis dans un laboratoire, j'ai fait une analyse de pus. Et bon, qui s'est révélée négative. Donc, c'est resté comme ça. D'autres disent que c'est une calvitie. Donc, je fais avec. Et jusqu'à l'heure, là, je n'ai plus retrouvé mes cheveux. Et ça m'inquiète énormément.
Rufine nous explique donc ce qui lui est arrivé au moment de cette grossesse. Sans parler de son cas en particulier, on peut avoir aussi des changements hormonaux qui peuvent toucher la coiffure au moment de la grossesse?
Oui, alors il y a quelque chose effectivement qui est très fréquent au moment de la grossesse, mais qui ne concerne pas l'histoire que nous raconte Rufine, mais on peut en parler. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène du postpartum. Alors, un mot très compliqué, très savant, pour dire que en fait, chez les hommes, chez les humains, les cheveux poussent, tombent et sont remplacés par d'autres de façon désynchronisée. C'est-à-dire, contrairement à d'autres animaux qui vont avoir un pelage en hiver et puis ils vont le perdre pour avoir un pelage plus court en été, tout va se faire en même temps, de façon synchrone. Eh ben, chez les hommes, ça pousse, ça tombe de façon désynchronisée. Mais parfois, pendant la grossesse, les cheveux qui auraient dû tomber vont rester en place. Et après la grossesse, quelques mois après, ça va se synchroniser. C'est-à-dire ceux qui auraient dû tomber, qui ne sont pas tombés, vont tomber en même temps que ceux qui dont le temps est fini et qui doivent tomber.
Donc ça peut inquiéter.
Ce qui fait que la femme peut être inquiétée. Elle a pu remarquer qu'elle avait une très belle chevelure pendant la fin de grossesse parce que ses cheveux ne tombaient plus. Et puis, ben, il rattrape le temps perdu, on va dire. Il se synchronise un peu et on a plein de cheveux qui tombent en même temps. C'est le phénomène d'effluvium après l'accouchement. Mais cela dit, ça c'est un phénomène très fréquent, très banal, mais ce que nous raconte Ruffine,
c'est différent,
c'est autre
ce
chose, c'est une maladie du cuir chevelu, je ne sais pas quelle est son origine, je ne sais pas quel est son diagnostic. La seule chose que je peux vous dire, Ruffine, c'est qu'il y a d'excellents dermatologues que je connais à Ouagadougou, à l'hôpital de Ouagadougou, et que vous pouvez continuer de les voir ou aller les voir.
En tout cas, au moment où on parle, Ruffine, ses plaies, ses lésions, elles sont complètement guéries.
C'est guéri.
C'est guéri, mais il y a la perte des cheveux au niveau de la cicatrice.
Peut-être une cicatrice.
Oui, oui, oui. Il y a des cicatrices et ça ne se repousse même plus.
La meilleure chose, donc, c'est ce que dit le docteur Antoine Petit, hein, c'est d'aller consulter, aller voir un professionnel pour en parler avec lui, pour qu'il puisse déjà peut-être vous donner des explications sur ce qui s'est passé, en tout cas vous donner des conseils pour ce que vous devez faire à présent pour cette situation. Vous remercie beaucoup de votre appel, Ruffine, et on va tout de suite prendre le chemin de Conakry.
Priorité santé sur RFI.
Et en écho à tout ce qu'on vient d'entendre comme question, nous sommes en ligne avec le docteur Fatimata Keïta. Bonjour docteur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes dermatologue.
Bonjour docteur Petit.
Bonjour Fatimata.
Vous êtes dermatologue au CHU d'Onca de Conakry. Alors ce sujet hein, de dermatologie, le cheveu, on imagine que c'est quelque chose aussi qui suscite de très nombreuses consultations dans votre service, docteur Keïta.
Tout à fait.
Et pour quelles raisons, justement, ce sont plutôt des hommes ou plutôt des femmes qui viennent en consultation?
Nous remercions RSI pour l'opportunité offerte. Alors, la réponse est oui, nous rencontrons des pathologies du cuir chevelu dans notre service. Cependant, la demande de consultation, selon le sexe, les femmes consultent beaucoup plus que les hommes.
Avec...
La thématique pathologie du cuir chevelu est très vaste et très variée.
Docteur Keïta, que les femmes consultent beaucoup, justement, en relation avec toutes ces questions d'auditrices que l'on vient d'entendre, en relation avec les pratiques de coiffage, les pratiques de lissage?
Tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir que le principal motif de consultation est essentiellement représenté par les alopécies. Donc, il y a des alopécies qui sont d'origine congénitale et des alopécies qui sont d'origine acquise. Et généralement, les problèmes que nous avons sont plutôt des alopécies acquises qui sont les plus fréquentes. Et l'alopécie, docteur Antoine Petit l'avait dit tout à l'heure, désigne une raréfaction ou une disparition des cheveux. Et il faut souligner aussi quelque part, la chute de cheveux est peut-être physiologique, il a également signalé. C'est-à-dire, quand on reçoit une femme en consultation et qu'elle se plaint de chute de cheveux, la première des questions qu'on pose, c'est comment vous vous rendez compte que vous perdez vos cheveux? Alors, si la réponse est au cours d'un shampoing ou alors lorsque je me brosse les cheveux ou lorsque je me peigne les cheveux, je perds quelques cheveux, c'est normal, c'est idéologique. Chacun d'entre nous perd à moins une trentaine de cheveux. On essaie de rassurer la patiente. Mais si c'est par exemple, elle nous raconte qu'elle ramasse des touffes de cheveux sur l'oreiller, dans le canapé, il y a de quoi s'inquiéter. Il y en a qui peuvent même ramener des touffes de cheveux. Il y a de quoi s'inquiéter dans ce cas.
Et est-ce que les patientes que vous recevez en consultation font le lien entre leurs habitudes de coiffage et les problèmes de cheveux qu'elles ont, où certaines, par exemple, ont des tissages, des tressages très serrés et ne font pas le lien avec la perte de cheveux?
Alors, il faut savoir qu'il y a des alopécies qui sont dues aux habitudes cosmétiques, au mode de coiffage, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a aussi des alopécies qui n'ont rien à voir avec les habitudes cosmétiques. Voilà. Et les alopécies, elles sont soit cicatricielles, soit non cicatricielles. Et elles sont cicatricielles lorsqu'il y a destruction de façon irréversible le follicule pileux par aboutissement de tout processus inflammatoire. Donc, dans ce cas, dans les cas de folliculite, par exemple, décalvante de la nuque, dans les cas de lupus chronique discoïde, dans les cas également d'alopécie centrale centrifuge, qui sont des alopécies cicatricielles, on ne peut pas toujours incriminer, surtout dans les deux premières que je viens de citer, on ne peut pas toujours incriminer les habitudes cosmétiques. Par contre, les alopécies par traction, ces alopécies n'ont aucune spécificité d'origine ethnique, mais sont quand même une cause très fréquente de chute de cheveux chez la femme noire. Et on l'a aussi dit, les nattes, les tresses, les enroulements divers, la colle ou encore les clips d'un postiche sont autant de facteurs traumatisants sur les cheveux. Les extensions ou ajouts majeurs par le poids, ces facteurs tensionnels délétères. Il faut savoir que les femmes africaines aiment le poids, elles aiment le volume. Donc, ce qui fait qu'il y a une douleur qui est présente, Dr Petit l'a également mentionné, et exprime une forme de souffrance folliculaire, même si elle n'est pas systématique.
Et justement, un message à faire passer, parce que Dr Fatimata Keïta, vous renseignez les patientes quand elles ont justement ce type de problème, qu'elles perdent leurs cheveux, et puis aussi l'information qu'on peut ramener à la maison pour que ça s'arrête, et notamment quand on a des filles à la maison, des cousines, des tantes, pour justement faire passer le message en famille.
Bon, on parle de cheveux cassants, et bien il y en a qui disent le cheveux se casse. Le problème de cheveux cassants est un problème de tige pilaire fine chez la femme africaine, la tige qui se rompt facilement. Il faut donc lutter contre les facteurs favorisant la cassure, tels que les shampoings très agressifs. Également, il faut l'utilisation des sèches-cheveux très chauds, des lisseurs très chaud également, doivent être les sèche-cheveux, les lisseurs doivent être appliqués ou orientés à une température modérée quand même pour pouvoir limiter effectivement la cassure de ses cheveux. Et voilà.
Des informations en tout cas sur l'entretien au-delà des pathologies graves que vous aviez citées tout à l'heure également qui arrivent jusqu'à votre consultation. Vous remercie beaucoup Dr Fatimata Keïta. Je rappelle que vous êtes dermatologue au CHU Donka de Conakry.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Nous nous retrouvons dans Priorité Santé pour la dernière partie de notre magazine consacré à la santé des cheveux. Donc ces problèmes centraux dont on a parlé depuis le début de cette émission, la traction excessive des cheveux par le tissage, par le lissage. Et on vient de l'entendre rapidement avec le docteur Keïta, le chauffage. Est-ce que le chauffage aussi, quand on lisse, que ce soit avec des pinces chauffantes ou avec le séchoir en faisant un brushing, hein, on parle communément de brushing, est-ce que c'est quelque chose qui est néfaste pour la chevelure ou ça dépend?
Oui, le docteur Keïta a parfaitement raison de souligner. Hein, le lissage des cheveux, la permanente, le brushing par un chauffage extrême, ça, le peigne chaud qui était utilisé aux États-Unis au début du XXe siècle, hein, enfin assez longtemps d'ailleurs, et qui est encore un peu utilisé aujourd'hui avec les fers à friser, etc. Bien sûr, ça abîme. Hein. Le principe est toujours le même, que ça soit chimique ou par la chaleur. On va détruire certaines molécules, rompre des ponts entre certaines molécules qui font la structure du cheveu. On va lui donner une autre forme, et ce faisant, on abîme la structure protéique, c'est-à-dire les molécules de protéines qui composent le cheveu, de kératine. Hein. Donc il y a toujours une altération du cheveu.
Tout à l'heure, en tout début d'émission, on a parlé justement du cheveu reflet de notre santé. Précisément, est-ce que certaines carences nutritionnelles peuvent entraîner une détérioration du cheveu, voire carrément la chute du cheveu, docteur Antoine Petit?
Oui, absolument. Le problème des carences nutritionnelles, c'est que quand on est carencé, quand il nous manque un élément, un oligo-élément, une vitamine, etc., c'est souvent qu'on a des problèmes digestifs ou des problèmes de régime qui sont tels qu'il nous en manque plusieurs. Donc, il est difficile de dire précisément tel ou tel élément est indispensable. D'une manière générale, effectivement, si on est carencés en vitamines, en fer et en différents éléments, eh bien ça va se ressentir sur la qualité du cheveu.
Alors depuis le début de cette émission, on a échangé avec des personnes qui avaient eu leur chevelure qui s'était abîmée, on parle d'esthétique, mais c'est très sérieux parce qu'il y a aussi toute cette dimension psychologique, perdre ses cheveux, avoir une chevelure lésée, ça peut avoir un vrai retentissement sur le bien-être psychologique.
Alors c'est une cause de souffrance, on l'a entendu là, à travers la question de la féminité, à travers la question de la jeunesse. C'est une cause de souffrance énorme. Je pense là, il y a une responsabilité aussi de toute la société d'essayer d'adoucir ça en disant, on n'est pas obligé d'avoir des cheveux, de ne pas avoir de cheveux blancs, on n'est pas obligé de ne pas être chauve. Mais enfin, c'est difficile à entendre, il faut reconnaître que les gens qui ont des problèmes capillaires en souffrent énormément.
Alors, on n'a pas parlé du stress. Est-ce que le stress peut avoir un impact, docteur Antoine Petit, sur la santé de nos cheveux? Il y a de nombreuses expressions dans le langage courant, se faire des cheveux, se faire des cheveux blancs. Est-ce que c'est de l'imagerie populaire ou c'est une réalité?
Un peu les deux. Le stress peut être directement responsable d'une chute de cheveux, par exemple, à travers des manipulations. Quand on se tortille des mèches de cheveux, quand on est énervé, par exemple, ce qu'on appelle la trichotillomanie en termes savants, eh ben c'est une cause effectivement de chute de cheveux. Et puis surtout, certaines maladies de peau peuvent être déclenchées ou favorisées, elles peuvent pousser brutalement à l'occasion d'une peur, à l'occasion d'une émotion intense. Et c'est le cas de la pelade, et ça c'est quelque chose qui est reconnu. La pelade, c'est une chute des cheveux qui n'est pas définitive, ils peuvent toujours repousser, mais qui est impressionnante en plaques, la plupart du temps. Mais parfois, il y a même des formes de pelade où seuls les cheveux noirs tombent et on a l'impression que sa chevelure blanchit du jour au lendemain. C'est très particulier, ces phénomènes. Et effectivement, parfois, on trouve la veille ou deux jours avant une émotion très intense, comme une grande peur. Et on a tous, les praticiens en dermatologie, on a tous des histoires comme ça. Le petit chat de l'enfant est mort, il a perdu tous ses cheveux, ou il a fait trois plaques, ou l'enfant s'est perdu dans la forêt, ou il est allé voir un film, il a eu très peur, et le lendemain, il a perdu ses cheveux.
Et les démangeaisons, ma dernière question, quand on a le cuir chevelu qui nous démange, est-ce qu'il faut consulter? Est-ce qu'on peut justement avoir des solutions intermédiaires avant d'aller voir le dermatologue? Qu'est-ce qu'on fait?
Si les démangeaisons sont très fortes, on finit par consulter. Hein, ça dépend de la tolérance de chacun. Mais il y a souvent, effectivement, une petite dermatose banale qu'on appelle dermatite séborréique ou psoriasis du cuir chevelu, on va dire, où on a des pellicules, des rougeurs et des démangeaisons. Et ça se traite facilement avec des traitements locaux, en général. Il suffit d'aller voir son dermatologue ou son médecin.
De consulter. Merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir répondu
Merci à
l'invitation de Priorité Santé et d'avoir répondu aux questions de tous nos auditeurs. Docteur Antoine Petit, je rappelle que vous êtes dermatologue praticien à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Priorité Santé sur RFI.
Et nous allons à présent revenir sur cette étude publiée il y a une semaine par l'INSERM en question, l'efficacité à long terme du vaccin contre la fièvre jaune lorsqu'il est administré aux nourrissons. En lien avec nous en communication, José Enrique Mejía, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes docteur en sciences, chargé de recherche à l'INSERM au Centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan. Première question de base, hein, la fièvre jaune, qu'est-ce que c'est? Même si, bien évidemment, dans les pays où on nous écoute, la plupart des auditeurs connaissent bien la fièvre jaune, on va quand même rappeler que c'est un véritable risque de santé publique.
Oui, alors c'est une maladie virale qui est transmise par des moustiques et qui peut très souvent devenir extrêmement grave. Il y a un taux de mortalité extrêmement élevé.
José Enrique Mejía, l'objet de votre étude, pour y revenir, vérifier si oui ou non les bébés vaccinés vers l'âge de 9 mois sont toujours protégés par ce vaccin pendant l'enfance. Alors qu'est-ce que vous avez observé?
Oui, alors d'abord, le vaccin contre la fièvre jaune est un excellent vaccin. Par contre, il y avait une lacune d'information concernant les résultats à long terme de la vaccination chez les jeunes bébés. Et là, nous avons pris deux populations d'enfants qui avaient été vaccinés entre les âges de 9 et 12 mois, une population au Ghana, une population au Mali. Et il y a quelques années, ces bébés avaient été étudiés 4 semaines seulement après la vaccination. Et on avait observé un succès très élevé de la vaccination. Or, que voyons-nous, 2 à 6 ans après, parmi les enfants qui étaient protégés au départ, la moitié avait perdu leurs anticorps protecteurs. Et donc c'était une chute très très notable du pourcentage d'enfants qu'on pourrait considérer protégés contre la fièvre jaune 2 à 6 ans après la vaccination.
Et pourtant, l'Organisation mondiale de la santé recommande une dose unique de vaccin pour une protection à vie. Rosiane Riquier-Meria, donc la question se pose, est-ce que, à la lecture de vos résultats, des résultats de votre étude, on doit s'interroger sur le bien fondé de cette recommandation? Est-ce qu'il faut changer cette recommandation?
Alors, on savait déjà qu'il y avait des différences dans la vaccination entre les enfants et les adultes. On s'était aperçu que chez les enfants, le succès était, les cas d'échec vaccinal étaient plus fréquents et que les enfants avaient tendance à perdre la protection conférée par le vaccin plus vite que les adultes. Et l'OMS elle-même avait signalé en révisant les règles pour la vaccination, le rappel de vaccination, l'OMS elle-même avait signalé qu'il y avait une lacune d'information concernant les jeunes bébés. Et effectivement, nos résultats tendent à montrer que pour cette tranche d'âge qui constitue la cible première de la vaccination dans le pays où la fièvre jaune est endémique, effectivement, il faut se poser la question de l'opportunité d'un rappel de vaccin quelques années après la primo-vaccination.
Est-ce que ça veut dire que l'OMS est saisie de la question? Est-ce que ça veut dire que l'OMS s'achemine vers un changement de ses recommandations?
Alors, ce sont des informations qui sont récentes. Elles viennent accompagnées par des résultats d'autres groupes de recherche qui se sont intéressés à différents aspects de la vaccination. Tous ces résultats récents vont être traités sans doute dans les réunions des comités d'experts au niveau national et au niveau aussi des institutions internationales. Et je pense que dans les mois et les années qui viennent, on va voir l'aboutissement d'une réflexion à ce sujet qui a été enclenchée par nos résultats et ceux d'autres équipes.
Il nous reste peu de temps, mais il y a aussi la question de la production des vaccins. Ça prend du temps, ça nécessite de l'argent dans des pays qui n'ont pas forcément les moyens de suivre. Est-ce que ça veut dire que ces moyens seront là aussi en cas de changement de recommandation?
Alors, ça c'est une excellente question, parce que il semble y avoir une limitation dans la production au niveau mondial des vaccins. Par exemple, on a vu ces dernières années que
lors de l'épidémie au Brésil, ça avait été considérablement limité.
Voilà, et donc on fait appel à ce moment à des réserves de vaccins et il arrive qu'elles soient entièrement consommées. Et donc ça pose effectivement la question de la quantité, des quantités disponibles de vaccins. Une des voies qui sont explorées à l'heure actuelle, c'est les doses fractionnées, c'est-à-dire utiliser une fraction, un cinquième par exemple, de la dose actuelle.
Merci beaucoup, merci Rosiane Riquier-Meria. Comme on dit dans ces cas-là, affaire à suivre. On suivra ce dossier de la vaccination des jeunes enfants contre la fièvre jaune. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences et chargé de recherche à l'INSERM à Toulouse. Merci à toute l'équipe qui a fabriqué, préparé votre émission demain. Octobre rose dans Priorité Santé, mois de prévention, d'information pour lutter contre le premier des cancers féminins, le cancer du sein. On attend vos appels. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.